VOA Afrique, les infos. À Washington.
Idrissa Seydoudia, en votre compagnie, en Centrafrique, la candidature de François Bouzizé pour la présidentielle d'octobre est dénoncée par les autorités intérimaires. Pour le porte-parole du gouvernement, les sanctions onusiennes empêchent l'ex-président de se présenter à la prochaine élection. Eddie Sango.
La première difficulté, c'est que l'ex-président Bouzizé ne pourra pas se déplacer car les sanctions onusiennes l'en empêchent, a déclaré Dominique Saïd Pangouidji à la radio privée Radio Ndekeluka. Les mandats d'arrêt international à l'encontre de M. Bouzizé constituent un autre obstacle. Il pourrait, selon les porte-paroles, être exécuté dès que l'ancien président se présentera à la frontière ou à l'aéroport. Les partis de M. Bouzizé estiment qu'on veut simplement l'empêcher d'être candidat. Les premiers tours de la présidentielle est prévu le 18 octobre et il y a déjà une dizaine de candidats déclarés. Après des affrontements meurtriers, la Centrafrique est tenue à bout de bras par la communauté internationale. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU vient de nommer Parfait Onanga Anyanga, un Gabonais à la tête de la MINUSCA, après la démission du général Babacar Gueye suite au scandale des viols présumés commis par des casques bleus.
Au Cameroun, le président Paul Biya a promu au grade de général 5 colonels de l'armée engagés dans la lutte contre Boko Haram. Un décret présidentiel a été lu à la radio d'État ce vendredi. Et au Mali, arrestation d'une dizaine de personnes après l'attaque d'une gare routière à Bamako. Les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
Les auteurs de l'attaque d'une gare routière de Bamako sont suspectés d'être des terroristes selon le gouvernement malien, car la manière par laquelle ils se sont introduits dans la gare routière de Sogoningo et ont ouvert le feu sur le poste de police ressemble au mode opératoire des terroristes. Heureusement que leurs coups de feu n'ont fait que deux blessés, dont un policier et un civil non-voyant. Pour les enquêteurs, le travail qu'ils ont fait au préalable n'a pas été facile, mais ça leur a permis d'arrêter une dizaine de personnes. Les informations préliminaires requis seront transmises à la gendarmerie nationale afin de poursuivre le reste de l'enquête. Au stade de l'enquête, aucun auteur de l'acte du 12 août n'a été arrêté pour le moment. Le gouvernement du Mali condamne cet acte lâche qui, selon lui, vise à saboter le processus de paix et à semer la psychose au sein des braves populations du Mali. Le gouvernement malien invite l'ensemble des Maliens et des Maliennes et des autres étrangers à garder leur sang-froid et leur rassure que toutes les mesures appropriées ont été prises pour mettre la main sur ces criminels. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Épidémie de rougeole dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo. La maladie a fait près de 320 morts depuis janvier et contaminé plus de 20 000 personnes, indiquent les Nations Unies. Conflit au Soudan du Sud, le gouvernement suspend sa participation au pourparlers de paix en cours à Addis Abeba et le président Salva Kiir a annulé son voyage dans la capitale éthiopienne. Décision prise à l'issue d'une réunion des gouverneurs des 10 États du pays avec le président Salva Kiir. Les autorités disent attendre que les deux factions rebelles trouvent une solution à leurs différends. Il vaut mieux retarder la signature d'un accord, mais être sûr d'éviter de revenir à la guerre, estime Djouba. Sirte, en état de guerre dans le nord de la Libye, de violents combats entre des hommes armés et des djihadistes. De violents combats ont fait des dizaines de morts depuis 4 jours. Mardi, le gouvernement de Tripoli a annoncé le lancement d'une opération pour libérer Sirte. Rappelons que la Libye est profondément divisée, deux gouvernements se disputent le pouvoir, l'un à Tripoli sous le contrôle de la coalition de milices Fajr Libya, l'autre à Tobrouk, reconnu par la communauté internationale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est rendu aujourd'hui à La Havane pour une visite historique de quelques heures à Cuba. Il a assisté notamment à la levée du drapeau étoilé devant l'ambassade des États-Unis. C'est tout un symbole, Jacques Aristide.
Ladies and gentlemen, please rise for the raising of the flag and the national anthem of the United States.
La bannière des États-Unis flotte à nouveau depuis ce vendredi dans la capitale cubaine, 54 ans après avoir été abaissée. Et pour marquer un peu plus l'histoire, ce sont les trois Marines, Jim, Tracy, Mike East et Larry Morris, qui l'avaient descendu en janvier 1961, qui l'ont remis aux jeunes Marines pour le hisser. Pour le chef de la diplomatie américaine, c'est un moment mémorable entre les deux anciens adversaires de la guerre froide.
Je remercie le pape Francis et le Vatican pour nous avoir aidés à ouvrir un nouveau chapitre dans nos relations. J'applaudis le président Obama et le président Castro pour avoir eu le courage de nous réconcilier malgré une féroce opposition.
John Kerry a également réaffirmé que le gouvernement de Barack Obama était fortement en faveur de la levée de l'embargo imposé à Cuba depuis 1962. La brève visite de John Kerry vise également à aborder les sujets qui fâchent, comme la protection des droits de l'homme et des dissidents politiques, des sujets que les opposants à la détente accusent l'administration Obama d'avoir sacrifié sur l'autel de la réconciliation américano-cubaine.
En Chine, les autorités continuent d'enquêter sur les causes des deux explosions de mercredi soir dans la zone portuaire de Tianjin. Des craintes persistent sur la présence de produits chimiques dangereux près du site où l'on observe toujours plusieurs petits incendies. Le bilan officiel du sinistre est de 56 morts, dont 21 pompiers. Plus de 700 personnes sont toujours hospitalisées, dont 33 dans un état grave. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Les États-Unis enquêtent, eux, sur les informations d'officiels allemands selon lesquelles le groupe État islamique a usé d'armes chimiques cette semaine contre des combattants kurdes en Irak. Selon le ministère allemand de la Défense qui entraîne les Kurdes, quelques 60 combattants Peshmerga ont subi mercredi lors d'une bataille avec les djihadistes des blessures similaires à celles provoquées par ce genre d'armes. Selon un officiel américain qui a requis l'anonymat et que cite le Wall Street Journal, il pourrait bien s'agir de gaz moutarde dont se serait vraisemblablement emparé le groupe État islamique en Syrie. La Russie n'est pas attachée à la personne du président syrien Bachar al-Assad. Elle se préoccupe beaucoup plus de la préservation de l'État syrien et de son intégrité territoriale. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Moscou le chef de la coalition nationale syrienne Khaled Khorja au lendemain de ses négociations avec des responsables de la diplomatie russe, dont Sergueï Lavrov. La Russie, l'un des derniers soutiens du régime syrien, prône actuellement une coalition élargie comprenant notamment la Turquie, l'Irak, l'Arabie saoudite, mais aussi l'armée régulière syrienne et donc le président Bachar al-Assad pour lutter contre le groupe État islamique en Syrie. Le commissaire européen à l'immigration a déclaré que le monde affrontait la pire crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe. Selon lui, plusieurs pays sont débordés par les flux de demandeurs d'asile qu'il faudrait accueillir de façon décente et civilisée. Nicolas Pinault. En Grèce, le gouvernement veut accélérer l'enregistrement administratif de milliers de réfugiés syriens.
Oui, un ferry dépêché par le gouvernement grec est arrivé sur l'île de Kos. Dans cette petite île, les habitants ont fait état de nombreux incidents entre policiers et migrants qui étaient quelque 7000 sur l'île au début de la semaine en raison de l'engorgement des services de l'immigration. Cet exemple grec illustre la situation dans toute l'Europe. Le monde affronte la pire crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'affirme Dimitris Avramopoulos, le commissaire européen à l'immigration. La Grèce, dont M. Avramopoulos est originaire, a accueilli 50 000 demandeurs d'asile en juillet, contre 6 000 en juillet 2014, a rappelé le commissaire. Ce dernier a l'intention de se rendre prochainement en Turquie, d'où partent les migrants qui tentent chaque jour d'atteindre par centaines les côtes des îles grecques de la mer Égée. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 250 000 migrants ont cherché à rejoindre l'Europe par la mer depuis le début de l'année.
«
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.